Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur Radio France Internationale et c'est avec vous Frédéric Dabi. Bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, directeur général opinion de l'Institut de sondage IFOP. Et justement, ce qui fait la une aujourd'hui, c'est le sondage que vous avez réalisé et que publie le Journal du Dimanche. Une étude d'opinion qui montre que le président de la République est très impopulaire. Hein.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est le baromètre historique qu'il faut appuyer d'aider. Ce n'est pas le moins bon score pour Emmanuel Macron, mais 26%, c'est en dessous de son socle électoral. La part des mécontents est de 72%. Il avait déjà été moins bon au moment de la crise des Gilets jaunes, mais ce qui est particulièrement frappant, c'est la part des personnes très mécontentes à 47%. Et là, c'est un record, c'est un plafond pour lui, quand bien même certains de ses prédécesseurs ont connu une impopularité chronique. On se souvient des François Hollande, atteignant seulement 14% à trois reprises en 2016, ou Nicolas Sarkozy en 2011. Mais ce qui est très notable, c'est la personnalisation du rejet. Les Français disent souvent « c'est lui contre nous », avec bien sûr un effet lié à cette réforme des retraites si fortement rejetée.
Justement, j'allais vous demander si cette impopularité était due essentiellement à cette réforme des retraites.
Clairement, oui. Il y a bien sûr cette élection, cette campagne électorale étrange que les Français lui font payer, ce quinquennat qui n'est pas mort-né, mais qui est plutôt mal-né, qui n'a pas créé de distinction par rapport au premier mandat, pas contrairement à ses deux prédécesseurs qui avaient été réélus, François Mitterrand et Jacques Chirac. Mais clairement, quand on voit les raisons du mécontentement des Français, on est frappé de voir l'écrasante part de propos sur la réforme des retraites. Et ce qui est très notable, c'est moins le passage de 62 à 64 ans qui émerge que l'attitude du chef de l'État, qui n'a pas écouté, qui a gouverné seul, qui n'a pas écouté la rue, les manifestants, les syndicats, l'opinion des Français. Et tout ça a rejailli très négativement sur sa personnalité, notamment le côté autoritaire et le côté agent de désordre.
Emmanuel Macron élu il y a tout juste un an. Aujourd'hui, le ministre de l'Industrie, était sur France 3, c'était à la mi-journée, et Roland Lescure a dit ceci.
On peut avoir éventuellement des doutes sur les interpellations qui nous sont faites jour après jour. On peut quand même être assez fier du bilan, en tout cas moi je le suis. On est à un an d'un quinquennat. On ne va pas commencer à faire le bilan d'un quinquennat après un an. Mais depuis un an, on a voté 24 lois, dont 3 avec le 49-3, donc on avance.
Le président de la République a reconnu qu'il avait sa part dans ce qu'il se passe aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu venir?
Je pense qu'il avait vu venir les réactions à la retraite à 64 ans. Il s'attendait peut-être à une majorité parlementaire qu'il n'a pas eue, et ça on peut peut-être renvoyer la discussion avec nos amis républicains qui avaient prévu de voter une réforme que finalement ils n'ont pas réussi à voter. Moi je pense que ce qui a émergé surtout dans la discussion sur la retraite, et ça c'est très important, c'est la pénibilité et les institutions qu'on avait prévu de traiter après et qui nous sont revenus, je dirais, comme une urgence absolue auquel il faut qu'on s'attelle, et ça tombe bien, on a prévu de le faire.
Quant à Éric Zemmour, sur BFM, ce midi, il a sa théorie sur l'impopularité du chef de l'État. Il a été mal élu, explique le président du parti Reconquête.
Je pense qu'il paye une chose, c'est-à-dire qu'il a évité la campagne, grâce à des événements comme le Covid et en particulier la guerre en Ukraine. Il n'a quasiment pas fait campagne. Et il s'est retrouvé avec son adversaire habituel qu'il savait qu'il allait la battre avec aisance.
Alors, l'esprit en creux, c'est que s'il y avait eu campagne, il n'y aurait pas eu ce résultat.
Je dis qu'aujourd'hui, il ne serait pas ainsi contesté.
Donc ça le rend moins légitime.
J'ai jamais dit ça. Ah, il a été élu, il est légitime. Moi, je ne conteste pas la légitimité d'un président de la République réélu. Je dis simplement, les conditions politiques de son élection ne permettent pas et n'ont pas permis un débat sain.
Frédéric Dabi de l'IFOP, le record d'impopularité d'Emmanuel Macron, enfin pas tout à fait, hein, il y a eu pire. En tout cas, c'est très important depuis la crise des Gilets jaunes.
Oui, c'est vrai, c'est son score les moins bons depuis la crise des Gilets jaunes, où il avait atteint 23% seulement de satisfaits, plus de trois quarts de mécontents. Ce qui est notable quand même, c'est qu'après les Gilets jaunes, il avait connu un rebond très important avec le grand débat, avec un Emmanuel Macron qui incarnait le rempart face au désordre, face à la chenlit. Cette logique d'opinion aujourd'hui n'existe pas. C'est cette personnalisation du regard des Français, c'est cette relation envenimée. Il y a ce sentiment d'injustice lié à la réforme des retraites. Et maintenant, pour Emmanuel Macron, le plus important, c'est projeter son candidat vers l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire avec le cap des 100 jours, donner un nouveau cap, des nouvelles perspectives, travailler sur de nouveaux thèmes, il l'a fait lors de ses différentes interviews, son intervention télévisée de la semaine dernière, son interview dans Le Parisien qui sortira demain. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, les Français n'ont pas tourné la page retraite. Elle reste toujours là et ça obstrue, si je puis dire, la popularité présidentielle.
Et c'est la raison pour laquelle la courbe d'Elisabeth Borne subit un sort parallèle. Hein, seulement 27% de sondés satisfaits de son action. Là encore, une baisse de 2 points. Alors l'expression de cette impopularité, on l'a vu, on l'a entendu toute cette semaine lors des déplacements du président et de ses ministres. Visite houleuse d'Emmanuel Macron mercredi en Alsace, puis jeudi dans l'Hérault. Alors que la Première ministre a été reçue avant-hier par des manifestants mécontents dans l'Indre. Alors ce n'est pas avec des casseroles que l'on fait avancer la France, a dit Emmanuel Macron. Il n'empêche, Frédéric Dabi, que cela montre une contestation politique après la contestation syndicale.
Oui, on peut dire ça, même si d'un autre côté, les Français attendent d'une opposition des propositions, une vision, un cap, une offre programmatique, et ce n'est pas avec des casseroles que les oppositions, notamment celle de gauche, pourra créer les conditions de l'alternance. Mais c'est vrai que ces casseroles, qui rappellent par exemple celles dont avait été victime François Fillon, empêché pendant sa campagne présidentielle, montrent, sont le reflet de cet état de rejet d'une partie du pays. Mais je le répète, ce n'est pas le mode d'action que préférera une partie très importante de la population, quand bien même elle est, on l'a dit, très opposée, 2/3 des Français, 3/4 des salariés, à cette réforme des retraites.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Il y a 10 ans, la loi était votée, elle ouvrait le mariage aux couples de même sexe. Le texte avait profondément divisé l'Assemblée nationale, 331 voix pour, 225 voix contre au final. Gérald Darmanin disait cela à l'époque concernant le mariage pour tous.
Votre projet de loi est donc néfaste pour le mariage et l'adoption des couples hétérosexuels, car vous changez le droit pour eux. J'espère que plus tard, la rééducation de la police de la pensée me permettra de pouvoir penser l'inverse.
Eh bien, il a changé d'avis, puisque 10 ans après, le ministre de l'Intérieur fait la déclaration suivante.
Je me suis trompé, je le reconnais évidemment. Et par ailleurs, je crois que la gauche, à ce moment-là, le Parti Socialiste, le président Hollande en particulier, a eu raison.
Darmanin, Béchu, Copé, d'autres hommes politiques qui s'étaient opposés au mariage pour tous ont changé d'avis. Si l'immense majorité des élus donc, qui ont voté contre à l'époque ont désormais tourné casaque, quelques-uns restent profondément opposés, comme Éric Zemmour de Reconquête.
Je ne participerai pas cette accumulation, je vois, de mea culpa, j'ai fait des erreurs. Ça avait commencé avec Valérie Pécresse, vous vous souvenez, pendant la campagne présidentielle, elle avait déclaré qu'elle était à la manifestation pour observer. Le ridicule ne tue pas. Depuis 10 ans, puisqu'on fête le 10e anniversaire, il y a eu à peu près 7000 mariages par an sur les 200-250 000 mariages classiques. On a quand même fracturé le pays, divisé le pays pendant des mois pour un nombre très très réduit. Normalement, une loi, c'est une loi de portée générale.
Éric Zemmour, donc, tout à l'heure à la télévision. Frédéric Dabi de l'IFOP, il y avait eu donc de vifs débats dans l'hémicycle et dans les rues à l'époque. Si plusieurs candidats à la présidentielle appelaient encore à l'abrogation de la loi en 2017, aucun programme ne mentionnait cette promesse en 2022. Autant dire que 10 ans plus tard, le mariage pour tous est véritablement entré dans les mœurs en France.
Oui, complètement. Mais déjà, vous savez, Philippe, lors des mouvements contre le mariage pour tous, j'étais frappé de voir que dans les enquêtes d'opinion, il y avait une nette majorité de Français qui disaient favorable au mariage pour les personnes de même sexe. C'est-à-dire que sur l'adoption, on avait une fracturation, en gros, du 50-50. Au final, avant la loi, je m'en souviens, une enquête IFOP fiduciale montrait que 54% des Français soutenaient, donc bien au-delà de l'électorat d'un François Hollande très impopulaire à l'époque, soutenait la loi Taubira. Mais c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de grandes réformes sociétales qui avaient créé des débats, l'avortement bien sûr, la peine de mort à un degré moins d'après l'élection de François Mitterrand, qui servait d'onction de légitimité, et ce mariage pour tous. Et finalement, on voit voilà, les mea culpa de beaucoup de personnalités opposées. Et surtout, il faut le dire, une indifférence des Français. La loi est entrée dans les mœurs, personne ne songerait à la remettre en cause complètement, et c'est vrai que c'est peut-être ce qui restera de plus fort au mandat si compliqué de François Hollande.
Justement, que pensent les Français sur ce qui pourrait être la suite, c'est-à-dire la PMA ou la GPA, c'est-à-dire la procréation assistée ?
Alors, deux choses. Sur la PMA, des enquêtes IFOP ont été faites récemment. On est entre 2/3 et 3/4 de personnes favorables à la procréation médicale assistée. Sur la GPA, on a une petite majorité de Français favorables, mais là, on retrouve des clivages qu'on avait vus apparaître au moment de la loi Taubira, les personnes plus âgées, les catégories populaires, les personnes croyantes, catholiques, pratiquants, musulmans, se déclarent défavorables. Mais je suis frappé de voir en à peine 10 ans comme l'adhésion à ces réformes, PMA, GPA, a grandi de manière très spectaculaire dans l'opinion publique. Et on a vu un phénomène d'affadissement, d'atténuation, pour ne pas dire de disparition des clivages.
GPA pour gestation pour autrui. Vous parliez tout à l'heure de mea culpa. Le mea culpa en politique, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ce n'est plus un signe de faiblesse?
Ça dépend sur quelle thématique. Je pense que les Français ne sont pas sur une logique de casting, ne sont pas sur une logique de mea culpa, mais une logique de résultat. Est-ce que le politique change la vie? Et c'est vrai que la loi Taubira a changé la vie à de très nombreux couples de même sexe. Et n'a rien enlevé aux autres. L'articulation argumentaire de Christiane Taubira avait, à l'époque, avait convaincu beaucoup de Français. Bien sûr, le mea culpa devient dévastateur quand il s'inscrit dans une perte de cohérence, quand il y a un décalage entre le discours et les actes d'une personnalité politique. Attention à ne pas trop multiplier ce type de mea culpa.
Merci pour vos analyses et commentaires, Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'Institut de sondage IFOP dans Dimanche Politique sur RFI.